de digestion. Bienvenue à tous et toutes, toutes et tous. Donc nous sommes ensemble dans cet atelier 6 qui s'appelle Travailler à guérir. Et je commence par vous informer que nous n'aurons qu'une communication parce qu'il y a un désistement, celui de Frédéric Dambre. Donc nous allons écouter Lucille et je vous propose après de nous répartir dans les autres ateliers en cours. Alors, donc je vais donner la parole à Lucille Hervouet, qui est post-doctorante et qui a réalisé une thèse de sociologie au CSO, donc Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Et elle va donc, je vais lui laisser la parole pour la présentation de résultats issus de son travail de thèse. Donc, ben, on peut prendre le temps. On peut prendre du temps. Si c'est mieux avec le micro, je pense.
Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats, une partie des résultats de ma thèse qui était consacrée à la coordination de la prise en charge des malades atteints de cancer.
Bah, mettez-le pour les enregistrements, mettez-le de l'autre côté peut-être. Parce que c'est elle qui va parler.
D'accord. Donc ma thèse portait sur la coordination de la prise en charge des malades atteints de cancer. Et pour analyser la posture des malades face à l'enjeu de coordination de leur prise en charge, j'ai essayé de mettre en évidence un rapport d'incertitude auquel les malades font face tout au long de leur prise en charge, tout au long de leur trajectoire. Donc, l'objectif de la thèse était d'une partie de la thèse était de montrer que l'incertitude structure l'enjeu de coordination tel qu'il est vécu par les malades. Donc on peut rappeler rapidement la définition de trajectoire telle qu'elle est donnée par Anselme Strauss. Donc il montre que la trajectoire fait référence non seulement au développement physiologique de la maladie, mais également à toute l'organisation du travail qui est déployée autour du patient, et à l'impact, au retentissement que ce travail a sur les différents acteurs, y compris le malade lui-même. Donc la communication que je présente propose de rendre compte de cette approche temporelle de l'expérience de la maladie et du traitement pour mettre en évidence le caractère incertain de la trajectoire, y compris dans une phase dite de rémission. L'incertitude s'exprime tout au long de la trajectoire et elle porte sur la trajectoire elle-même, notamment sur son issue. Donc, comme Marie Ménoré l'explicite, on fait face à une forme d'incertitude particulière, puisque c'est une incertitude qui, selon les termes de Marie Ménoré, évolue dans le temps d'une part, et d'autre part, qui a trait au temps, qui porte sur le temps lui-même. Donc, ici, je montrerai à partir du discours des malades interrogés comment l'expérience de la maladie grave telle que le cancer se structure dans le temps et dans l'espace pour mettre en évidence l'émergence de différentes problématiques et notamment celle de l'incertitude. Donc en termes de méthodologie, dans le cadre de la thèse, j'ai réalisé 93 entretiens et des observations. Donc plus particulièrement 30 entretiens auprès de malades, de proches et de représentants d'associations de malades, eux-mêmes malades. Donc, dans un premier temps, je reviendrai brièvement sur le temps du diagnostic et du traitement pour voir de quelle manière est-ce qu'ils structurent eux-mêmes le temps de la guérison. Donc, le diagnostic correspond à un moment d'ajustement à la rupture que constitue l'entrée dans la maladie, comme l'a montré Herzlich. Donc, dans le cas du diagnostic d'un cancer, l'annonce de la maladie représente d'autant plus un moment critique que tous les individus ne sont pas, bien sûr, préalablement face à des symptômes et ne se considèrent pas encore comme malades. Rapidement, les patients rendent compte d'une tension entre l'attente et l'urgence de la mise en route d'un traitement. Donc, l'attente est d'autant plus difficile à gérer qu'à sa propre angoisse s'ajoute l'appréhension de l'annonce de la maladie à ses proches. Une patiente explique par exemple « On attend les résultats, c'est long et on est dans une angoisse en se disant « j'ai pas, le temps est difficile à gérer, il y a la famille à qui on ment pendant 3 semaines parce qu'on ne l'a pas dit ». Donc les patients intériorisent à ce moment le fait qu'ils doivent être traités le plus vite possible, donc ils intériorisent les représentations médicales de selon lesquelles la qualité est liée aussi à la rapidité des délais de prise en charge. Une patiente rend compte de cette intériorisation en disant « Il a fallu être très rapide, sinon on m'a dit textuellement, si vous ne commencez pas cette chimio rapidement, ce n'est pas la peine. » Donc ensuite, dans la suite de la citation, on voit qu'elle a retenu l'ensemble des dates, des délais, et c'est un des indicateurs qui fait qu'elle évalue la qualité de sa prise en charge. Concernant le temps du traitement, l'entrée dans le traitement correspond à une forme de perte de contrôle qui est traduite dans le discours des malades à travers des expressions telles que, entre guillemets, parenthèse dans sa vie ou encore l'idée que la vie ne leur appartient plus. Donc, comme l'a montré Marie Ménoré, les patients entrent dans une phase de routine, donc dans une routinisation. Où l'imposition d'un rythme allège la charge mentale que représente le traitement pour les malades, mais aussi pour leurs proches. Donc, une proche explique par exemple, c'est réglé comme du papier à musique, l'organisation ça aide car on n'a pas le choix, le reste on case. Donc l'enjeu du maintien du programme est très fortement intériorisé également par les patients. Ils ont peur que ça retarde leur sortie de traitement et par suite la sortie de la maladie. Donc cet enjeu de routinisation est bien caractérisé par les patients eux-mêmes. Donc cette routinisation, elle décharge les patients d'une part de leurs contraintes logistiques et de la charge mentale associée à la gestion de la maladie. Néanmoins, il y a des contraintes qui persistent, et notamment des contraintes en termes d'attente. Une patiente explique « Quand on est dans cette maladie, on apprend à être patient, car effectivement, on est dans l'attente perpétuelle. » Donc ces moments d'attente sont perçus comme inhérents à l'organisation de la prise en charge hospitalière, et pour plusieurs patients, c'est même une des caractéristiques de la définition même de leur rôle dans leur prise en charge. Donc les patients rendent compte de différents aspects de ce rôle, qu'ils vont d'ailleurs en partie conserver suite au traitement. Donc ce rôle passe par exemple par apprendre à gérer les effets secondaires, donc une compétence qu'ils valoriseront après le traitement, et également une compétence d'endurance. Donc, dans cette logique de traitement, le temps apparaît comme une ressource, notamment une ressource pour faire face à la maladie et au traitement. Donc, dans le cadre d'une gestion de la maladie en succession de court terme, comme l'a montré Marie Ménoré, certains patients apprécient le fait de pouvoir vivre au jour le jour, donc avec ces courts termes qui sont mis en œuvre par les médecins dans le cadre d'une incertitude médicale. Un patient explique par exemple, à un moment on comprend bien le langage médical, on ne peut pas vous certifier que c'est bien, on est content, le scanner montre que on va vers tel stade de guérison, mais jamais on ne vous garantit que. On aimerait être sûr des fois, mais on n'a aucune certitude. Donc on se projette moins, on est au jour le jour, on ne sait pas quand sera, comment sera le prochain scanner. Donc ce vécu au jour le jour permet à certains patients de mettre à distance la longue maladie. Une patiente explique ce que j'ai trouvé d'intéressant chez tous ces gens, c'est qu'on raisonnait par date butoir. On ne fait pas un truc sur le long terme, il y a de petites échéances. J'ai trouvé que c'était bien, car quand on rentre dans cette maladie, on m'aurait dit que dans 6 ans, je serais encore dans des traitements, je serais découragée. Donc, dans la phase d'après-traitement, la pérennisation de l'incertitude qu'ont montré les patients que j'ai pu interroger met en évidence qu'il n'y a pas réellement de sortie de la maladie dans le sens d'une guérison. Donc le terme de guérison n'est d'ailleurs employé par aucun des patients, des 25 patients que j'avais interrogés. Donc les stratégies de gestion du traitement en succession de court terme ont pour bénéfice de reléguer une partie des questionnements sur l'avenir à plus tard. Et c'est finalement dans la phase d'après-traitement que s'expriment fortement les questions sur l'avenir. Pardon. Donc, une patiente explique « On se sent bafoué, on se sent diminué, différent des autres. On pense très souvent à la mort, on y pense plus maintenant qu'avant, parce qu'avant vous êtes pris dans les soins. » Donc, la phase de traitement, effectivement, et la routinisation permettaient à cette patiente de mettre à distance les questionnements sur son avenir, qui ressurgissent fortement lorsqu'elle arrête son traitement. De plus, si le patient est rétabli physiquement, bien que certains patients souffrent bien sûr de complications, la sortie du traitement n'est jamais un retour à la vie comme avant. Donc, une femme explique par exemple qu'elle n'a plus les mêmes capacités physiques. Donc, c'est plus pareil. Au bout de 6 ou 7 heures de travail, quand je rentre le soir, je suis beaucoup plus fatiguée, je n'ai plus envie de sortir. Donc, les patients souffrent. Pour certains, d'une condition physique diminuée, et pour tous ceux que j'ai rencontrés, d'un risque de complications. Donc, l'après-traitement consiste pour les patients qui bénéficient d'un traitement efficace à leurs yeux. L'après-traitement consiste en une entrée dans une période de surveillance, avec des examens et des consultations de contrôle réguliers. On retrouve à plusieurs reprises dans leur discours la métaphore de l'épée de Damoclès qui pèse sur ces patients qui sont angoissés notamment par le risque de récidive. Un patient explique « L'attente la plus difficile, c'est le suivi aujourd'hui. Je dois attendre 3 semaines entre le scanner et la lecture. » Donc cette attente qui caractérisait l'ensemble de la trajectoire des patients depuis le diagnostic est particulièrement difficile à vivre, y compris dans l'après-traitement. Donc cette attente, elle est d'autant plus difficile qu'elle porte sur une expectative au terme indéfini, contrairement au traitement où les patients pouvaient raisonner par date butoir. Donc finalement, pour les patients rencontrés, leur trajectoire apparaît comme une trajectoire sans fin, qui rapproche de l'expérience de la maladie chronique avec l'acquisition de compétences, comme on l'a vu précédemment, sans toutefois que les patients puissent maîtriser leur trajectoire ni l'évolution de leur maladie. Donc certains patients acceptent difficilement cette trajectoire de malade perçue comme sans fin. Une patiente explique par exemple « À la fin de ma radiothérapie, qui s'est très bien passée, sans complications, rien », l'oncologue me dit qu'on se reverra pour une radio des poumons, mais c'est pas possible, on ne peut pas souffler, on vient juste de finir la radiothérapie et il me colle le truc des poumons. » Donc finalement, une patiente emploie l'expression de saturation médicale pour désigner le fait qu'elle se sente, qu'elle n'arrive pas à sortir de sa trajectoire de malade, bien qu'elle ne prenne plus de traitement curatif. Donc les consultations de contrôle sont vécues comme une forme de maintien de la maladie pour ces patientes. Il s'agit d'arbitrer entre le poids émotionnel de ces visites régulières chez un médecin et en même temps le risque que représente la sortie d'un dispositif de surveillance. une patiente explique, je consulte régulièrement ma gynécologue, mais c'est vrai que si je m'écoutais, j'arrêterais de voir tout ça. Je n'irai plus tellement j'en ai ras-le-bol. On est trop dans la maladie tout le temps, ça me pèse et ça me rappelle à chaque fois tout ce qui s'est passé avant. De plus, dans cette trajectoire sans fin, certains patients ont du mal à trouver un interlocuteur approprié pour les aider à gérer l'émergence des appréhensions qui sont suscitées. Donc c'est là notamment qu'apparaît l'enjeu de coordination, y compris en dehors de la phase de traitement. Une patiente en rémission, suite à un cancer du sein, s'inquiète par exemple d'un mal de tête récurrent et elle explique « Je suis allée voir l'oncologue pour faire un contrôle des poumons, mais il n'y a que ça qui l'intéresse, tout ce qu'il y a autour, ça ne l'intéresse pas. Qui s'occupe du reste alors? C'est la secrétaire, le généraliste, le psychologue? J'ai expliqué ça à ma mère. Même si les médecins vous disent que vous êtes guéri, moi, je n'ai jamais guéri. » Donc cette pérennisation de la trajectoire et de l'incertitude met en évidence aussi l'enjeu de coordination entre la ville et l'hôpital, y compris à la fin du traitement curatif. Donc pour conclure, apparaît l'importance de prendre en compte également le vécu du diagnostic et du traitement qui structure le vécu de l'après-traitement pour comprendre cette relative distance des malades vis-à-vis de l'idée de rémission et encore plus de guérison. La sortie de la phase de traitement qui est organisée par un établissement hospitalier marque une rupture dans la trajectoire des malades, mais la trajectoire ne prend pas fin du point de vue des malades. Ils entrent dans une phase pour ceux qui entrent dans une phase de surveillance, s'expriment notamment des appréhensions sur l'avenir, sur le risque de récidive, qui sont d'autant plus mal gérées lorsqu'ils ne trouvent pas d'interlocuteur approprié pour faire part de leurs appréhensions. La pérennisation de la maladie bouleverse les repères mobilisés par les patients pour faire face et implique un travail d'orientation dans un nouveau cadre organisationnel, dans un nouveau contexte de prise en charge. Tout au long de cette trajectoire, on constate qu'il y a une multiplicité de dimensions du travail inhérent au rôle de patient, mais que c'est cet apprentissage du travail, du rôle de patient, ne permet pas de gérer l'incertitude qui est prégnante à la fin de la trajectoire. Merci.
Alors, merci beaucoup pour cette intervention, pour cette présentation. Donc, comme il n'y a pas de deuxième intervention, nous avons du temps pour des questions. Oui, Madina.
D'abord, je vous remercie pour cette présentation. J'ai peut-être raté l'info au début. Est-ce que vous pouvez nous dire la période de l'après-traitement, jusqu'à quelle période on est après le dernier soin qui a été donné? Et dans cette phase-là, est-ce que vous avez vu une évolution aussi dans la représentation des personnes que vous avez interrogées?
Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Donc la période d'après-traitement, celle que j'ai vue le plus tard, c'était 20 ans après un traitement de... Mais c'était un traitement pour un cancer de la thyroïde. Donc j'arriverai pas à faire une typologie ou à caractériser une différence sur l'évolution de l'incertitude ou même le fait de se sentir guéri à un moment donné, puisque même cette patiente, même cette ancienne malade, elle se considérait toujours comme à risque et ressentant encore les effets de son traitement.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pardon, oui.
Une remarque, peut-être, c'est pour ça que vous dites, dans laquelle je suis tombé, sur laquelle je te sensibilise. Les patients, souvent, les patients qui ont un cancer. Ils n'ont pas un cancer du sein ou de la thyroïde ou du pancréas. Le truc du cancer prend le pas. Or, si on réfléchit sur les temporalités et sur les traitements médicaux, et ça se voit un peu parce que dans les cancers que tu as sélectionnés, il y a beaucoup de cancers, je veux dire, longue durée, très protocolisés sur le long terme. Côté médecin, on sait exactement qu'en première ligne on fait ça, en deuxième ligne on fait ça, en troisième ligne on fait ça. Moi j'ai beaucoup travaillé sur le sein aussi, j'avais un peu cette illusion-là. Mais dès qu'on part dans d'autres familles de cancers, les digestifs, par exemple, Le médecin, il a une ligne où il sait ce qu'il fait, et après, il est tout seul. Et donc, le rapport à la temporalité, la capacité à programmer, à dire dans 2 ans, dans 3 ans, et à croiser sur sa route des gens qui sont malades, ou qui ont une expérience de maladie qui date d'il y a 10 ans, 5 ans, 15 ans, c'est plus du tout la même quand on quitte la famille du cancer. Et c'est vrai que le cancer du sein en particulier, qui est le plus travaillé, y compris chez nous en sciences humaines et sociales, nous déforme un petit peu à ce niveau-là, parce que c'est un cancer qui, heureusement, est très bien soigné, et avec des gens qui durent très longtemps, mais il faudrait se rendre compte que c'est un cas spécifique du cancer. Quand même. La thyroïde aussi, mais il y a beaucoup de cancers où, hélas, les choses sont plus ramassées.
Alors, pour continuer sur la question, est-ce que, du coup, il y a des cas spécifiques, ou est-ce qu'il y a des... Est-ce que le regard anthropologique ne permet pas de faire émerger des situations qui seraient justement différentes selon les cancers, ou est-ce qu'il faut avoir un regard unifiant sur le cancer?
Moi, en tout cas, j'ai pas... Maintenant que dans le cadre de mon postdoctorat, je travaille que sur le cancer colorectal, effectivement, cette différence, je la sens plus, mais surtout du côté des médecins, d'ailleurs. Mais à l'échelle de ma thèse, j'avais pas d'a priori. Enfin, j'ai essayé de faire varier le sexe, le type de cancer, l'âge, etc. Mais j'ai pas identifié que ce soit des variables qui structurent vraiment le vécu, en tout cas par rapport à l'idée de guérison. Aucun des patients que j'ai rencontrés ne se sentait guéri.
Mais sur tes entretiens de patients, le pourcentage de cancer du sein, c'est combien?
La moitié.
Voilà, pour un cancer qui représente 20% des cancers. Parce qu'il y a pour 10.
Philippe.
Oui, j'ai une question, mais c'est peut-être difficile d'y répondre dans ce travail-là. L'incertitude chez les médecins, dans certains cancers, diminue avec certains outils technologiques plus récents. Je pense en cancer du poumon, au PET scan, qui permet de voir s'il y a des métastases ou pas, s'il y a des reprises du cancer initial, etc., et qui, du point de vue des docteurs, est assez rassurant quand il est négatif. Est-ce qu'il y a une évolution du sentiment de pérennisation, d'incertitude, chez les patients, selon que leur cancer et ancien et avait été et qui n'était pas confronté à ces technologies nouvelles, ou avec les patients plus récents?
Je saurais pas le dire, mais par exemple, on avait l'extrait d'un patient qui avait justement un cancer du poumon, et c'était récent, et il faisait justement ses examens, et en tout cas, ça enlevait pas son incertitude, puisque eux, c'est pas leur incertitude, elle porte pas sur le discours, la validité de la récidive. C'est le fait qu'elle arrive ou pas, en fait. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés, ils n'avaient pas peur d'avoir une récidive et que ça se voit pas. Ils avaient peur que ça, juste qu'elle, voilà, exactement.
Donc, Marie Ménoré.
Oui, moi j'aurais une question par rapport aux témoignages, aux extraits d'entretien que vous nous avez présentés. Je me demandais, est-ce que vous avez vu sur votre travail de terrain une tentative de la part des patients, pour le coup, de politiser à minima leur détresse en face de l'incertitude qui les menace donc sur le très long terme? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu des tentatives d'une parole collective, quoi? Parce que là, on est vraiment dans des témoignages, dans des récits très individuels. Et je voulais savoir si c'était un effet de votre façon de leur poser des questions, ou bien qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vais vous dire pourquoi je pose cette question, parce que avec le travail que j'avais commencé à aborder ce matin, commencer donc avec Julien Biaudet pour la première année. Julien, qui avait travaillé sur les greffes du cœur et qui n'y connaissait rien à la cancéro, il disait: mais qu'est-ce qu'ils sont dociles, les patients en cancéro, quoi. Ça, c'est un truc incroyable. Ils n'ont aucune résistance, alors même ben, collective, là, je suis dans la politisation, sans doute c'est un peu trop vite, mais cette docilité, donc. On entend bien la détresse qui s'exprime et on la connaît, mais est-ce que ça va plus loin, quoi?
Il y a peut-être un... pas un biais, mais en tout cas pour mieux caractériser mon échantillon, en fait, j'ai été aidée dans le recrutement des patients par un réseau de cancérologie. Donc il y a une grande proportion des patients qui étaient en difficulté aussi également sociale ou familiale ou économique. Donc,
ce qui rajoute à l'abattement.
Voilà, exactement. Ce qui peut rajouter à la, peut-être à l'idée de fatalité ou de, ou en tout cas le fait de d'abord avoir à régler des problèmes personnels avant de pouvoir éventuellement s'engager. Mais d'un autre côté, j'ai aussi rencontré des patients qui s'étaient engagés dans des associations, notamment la Ligue contre le cancer. Et pourtant, et certes, je les interrogeais sur leur propre trajectoire, mais je les interrogeais aussi sur l'enjeu de coordination. Donc, sur aussi une vision éventuellement plus large de leur prise en charge et de l'organisation. Et en tout cas, le registre, effectivement, c'est plus celui de la plainte que de la critique ou du combat ou même de la revendication, effectivement.
Juste peut-être pour continuer, et même dans les associations, il n'y a pas l'émergence d'une parole transformant la plainte en, au moins en une, je sais pas, au moins en une solidarité ou en une demande d'information ou une diffusion d'information ou...
Si, effectivement, oui. Il y a eu notamment les, sur l'enjeu de la coordination, il y a eu notamment les états généraux de la Ligue en 97-98.
J'ai travaillé sur les associations dans la lutte contre le cancer. Je suis d'accord sur le terme de docile, pour ne pas dire de mouton quand même. C'est-à-dire que quand on connaît les associations de patients dans d'autres pathologies, le sida évidemment, donc, même la FM, les associations de lutte contre le cancer de patients sont quand même extrêmement d'ailleurs sous contrôle des médecins. Hein, sont, tous les CA sont entièrement composés de médecins, etc. Et alors c'est une histoire du sida qui est différente de celle du cancer. Il y a quelques associations très rares qui sont des associations critiques, je pense aux Amazones par exemple, qui sont des associations, une association de femmes qui remettent en question la reconstruction mammaire systématique après un cancer du sein, en disant c'est déjà suffisamment traumatique de vivre un cancer du sein, automatiquement nous dire que de toute façon il n'y a même pas à discuter, on fait une reconstruction mammaire, mais ça se discute, et qui sont assez punchy, mais je ne pense pas que, enfin mon expérience, c'est que les associations soient un lieu de critique fort du pouvoir médical en oncologie, du moins en France. Et même des associations qui viennent des États-Unis, aux États-Unis elles étaient assez critiques, je pense à Vivre avec ou Vivre comme avant, qui était très axée sur le féminisme des 70, quand elles arrivent en France...
Pas du tout.
Ah ben, il y en a une des deux, alors je ne sais plus laquelle, une des deux qui est très féministe. Et quand elle arrive en France, elle est lycée.
Marie ?
Non, Vivre comme avant, c'est une émanation de, justement... De point de vue de différents cancérologues qui considéraient que pour faire passer leur message médical, c'est-à-dire tout ça c'est peu de choses, chère madame, vivez comme avant et oubliez tout ce qu'on vous a fait, elles se sont fait les...
Alors, c'était pour Vivre avec. Je confonds les deux. Il y a deux associations, Cancer du sein, Vivre avant et Vivre avec. Il y en a une qui est une transposition américaine et pas l'autre.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était de son terrain. Qu'est-ce qu'elle avait vu émerger par rapport à cette possibilité ?
Oui, effectivement, c'est plus la plainte que la critique, ou encore moins que la revendication, dans ceux que j'ai, dans les patients que j'ai vus.
Philippe et Madina.
Non, je voulais juste rejoindre ce que vous évoquez, en fait, parce que une expérience de terrain, on a eu que avec des personnes qui avaient eu un traitement pour un cancer du sein. Non métastatique, et on les a interrogés entre 6 mois et 24 mois, on présentera demain. Mais je enfin, tout ce que vous évoquez, et là avec plusieurs catégories sociales, ça fait des scores épi et on est en pleine concordance avec ce que vous rapportez. Et en revanche, dans une démarche de revendication que vous évoquez, alors c'était entre 6 mois et 24 mois, donc c'est très précis dans la temporalité après le dernier traitement. C'est pour ça que je vous questionnais sur la jusqu'où ça allait. On avait l'impression qu'il y avait un changement au bout de 24 mois, mais qu'on n'a pas pu aller explorer plus loin. Mais sur une revendication, de quoi ? Enfin, parce qu'elles sont dans un état, elles terminent un soin, donc elles sont livrées à elles-mêmes dans cette phase d'après-soin, quelque part, qui est en pleine... Alors, une des différences, c'est qu'en revanche, dans les structures où on était, le terme « guéri » a été utilisé par l'équipe, donc elle restitue, oui. Ce qui n'empêche pas du tout cette épée d'Amoclès, c'est l'expression phare chez toutes les femmes, donc une grande incertitude. Donc est-ce qu'elle devrait s'engager politiquement contre cette incertitude-là, c'est pas le combat. En revanche, ce qui était évoqué, cette notion d'isolement et d'envie d'échange collectif. D'ailleurs, on a fait plusieurs entretiens en collectif, ce qui était une innovation. On a proposé des entretiens individuels au collectif et ce sont les collectifs qui ont été le plus choisis et qui ont fait des réseaux entre elles après. Et là-dessus, je pense qu'il y a un questionnement. Alors, vous avez certainement les réponses que je n'ai pas en évoquant avec les associations. Il y a dans la démarche associative la volonté d'aider et de soutenir ces personnes-là. Or, dans leur discours à elles, elles ont envie de s'engager en tant qu'aidantes et accompagnantes. Est-ce que là, il n'y a pas un statut justement à questionner de la proposition qui est faite d'engagement dans l'association dans ces phases-là, qui est de les rendre bénéficiaires uniquement alors qu'elles ont envie d'être actrice engagée à soutenir d'autres. Donc il y a un statut à questionner, enfin c'était une hypothèse, à cet endroit-là, et que peut-être on ne leur donne pas cet espace-là. Et il y a un autre point, c'est l'isolement géographique. Dans les zones là où on était, le centre est en centre-ville, mais les personnes arrivent de loin en général. Donc il y a à nouveau un grand état de fatigue, une réminiscence de tout ce soin préalable et de la maladie, et qui fait que refaire une démarche de déplacement est quelque chose dans ces 24 mois-là qui est extrêmement lourd et difficile. En revanche, s'il y avait quelque chose à proximité, elle aurait fait la démarche. Donc, bon, c'est juste pour confronter ce que vous dites et aller dans votre questionnement où vous avez certainement des réponses d'ailleurs, mais au contraire, moi aussi, on est en questionnement aussi.
Pardon. Non, j'ai pas du tout de réponse, mais j'observe que le cancer est vraiment traité comme un problème individuel et jamais politique, jamais collectif. Bon, ça n'arrête pas ne cesse de m'intriguer depuis des années, ouais, des lustres. Quoi. Et je me dis peut-être les choses vont un peu évoluer, et de fait, très très peu. Quoi. Ce qu'évoque Lionel sur l'histoire des associations,
Il n'y a pas un combat pour un accès aux soins, ou lorsque vous évoquez, il y a une association qui va être sur une façon de traiter un soin, donc on peut se positionner contre ou pour. Là, elles sont dans un traitement. Dans un combat, pas dans un combat d'accès à un soin ou de modalité. C'est une question, hein, mais je...
Oui, moi je me pose la question sur cette histoire de revendication. Bon, je travaille surtout sur le VIH, et dans le VIH, on a clairement d'abord un traitement de mise à l'écart et de marginalité et de stigmatisation des malades, initialement au moins, dans le traitement, on va dire gentiment, et que les malades ont conscience d'appartenir à la même communauté de patients parce que justement c'est une maladie transmissible, c'est une maladie stigmatisante et c'est une maladie, une mauvaise maladie, c'est pas bien. Le cancer, quelque part, c'est vécu comme quelque chose qu'on attrape individuellement. Je mets à part les cancers du travail. Je pense que les cancers de la plèvre avec des revendications de maladies, de médecine du travail, de maladies professionnelles et de syndicats, c'est différent. Mais pour les autres cancers, c'est effectivement vécu, diagnostiqué et soigné individuellement. C'est dans un système qui est le système français de prise en charge correcte par le système médical. Alors correct, bien sûr, il y a plein de transfusions, il y a plein de médicaments douloureux, il y a plein d'attentes, il y a plein de choses, mais c'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Du coup, autant je comprends bien que les patientes cancéreuses ou les patients cancéreux aient besoin de se retrouver, à la fois comme aidant les autres, parce qu'eux-mêmes ont pu souffrir d'un manque de parole, d'un manque de conseils, d'isolement, etc. Autant une revendication au sens VIH, par exemple, je ne vois pas bien qu'est-ce qui peut émerger. Hein. En dehors du questionnement des Amazones, qui est un peu un questionnement spécifique, qui est très intéressant. Mais quelle revendication peut-on construire à partir d'une maladie qui est perçue comme totalement individuelle et avec un traitement individuellement adapté en plus, théoriquement.
C'est là où la sociologie et l'anthropologie devraient avoir des choses à dire.
Oui, oui, non, mais j'exagère.
Sur les déterminismes sociaux. Il y avait Ashley.
Non, c'était juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je pense que par rapport à ça, il y a pas mal de...
On n'entend rien. Pardon.
Sur tout ce qui pourrait être facteur environnemental, par exemple. Et par exemple, moi, par exemple, sur une étude qui n'a rien à voir sur le médicament en France, on voit bien à quel point ces préoccupations sont là et sont d'ordre politique. Pourquoi est-ce que quand on développe un cancer qui potentiellement a des origines environnementales, ça ne se manifeste pas? Ou ça, est-ce que c'est la clinique? Enfin, je reviens à la question. Voilà.
La culpabilisation.
Juste pour ça, c'est aussi que les cancers environnementaux aujourd'hui, ça peut bouger, hein, on considère que c'est 2%. Donc du coup, ça veut dire que par rapport à l'ensemble des cancers, c'est pas quelque chose qui... ça va un peu se noyer. Et c'est, je suis d'accord avec monsieur dans l'autre sens, c'est-à-dire que le problème du cancer, c'est que c'est une maladie universelle, donc individuelle. Le sida, parce que c'était des minorités, ça permettait la constitution d'un groupe.
Alors pour ne pas parler chiffres, justement, 2%, par contre, dans les représentations des individus, oui, c'est des Français, en l'occurrence, je pense, je ne sais pas si j'ai pas de stats en tête, mais cette idée qu'à un moment donné, notre société produit des objets alimentaires, des objets industriels qui viennent à un moment donné nous mettre en danger, et notamment sur cette pathologie-là, ça c'est réel et c'est assez important. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça ne devient pas politique? Je trouve que c'est une vraie question en fait.
Raymond Massé.
Ça, tout dépend en fin de compte de quel groupe associatif auquel on réfère, si on parle de cette mobilisation ou politisation ou non. Effectivement, je pense que c'est très vrai pour les associations de défense de patients, par exemple, ou les associations qui tournent autour des fondations, fondations contre le cancer, par exemple, fondations hospitalières qui vont traiter, qui font des levées de fonds. Et à ce moment-là, oui, effectivement, il y a une docilité qui est vraiment, là, au niveau de ces associations-là, une docilité totale. Les revendications vont plutôt dans le sens d'une surmédicalisation. On demande plus de soins, un meilleur accès aux soins, aux thérapies. Et aussi, on demande aussi, évidemment, plus de... un meilleur soutien aux proches, hein, les proches aidants de gens qui sont en situation de cancer. Mais il y a aussi, parallèlement à ça, des associations, je dirais, plus globales, qui s'adressent aux facteurs environnementaux aussi. Et le 2% est très discuté. Hein, en santé publique, on va un petit peu plus loin que le 2%, tout en sachant qu'il y a encore énormément de recherche à faire. Le problème étant que 99% des fonds de recherche sont axés sur la thérapie et à peine 1% sur les facteurs de risque associés au cancer. Alors, il y a une carence de recherche à ce niveau-là. Mais il y a quand même l'existence d'associations, au Canada, aux États-Unis, autour du cancer, mais qui s'adresse carrément à l'aspect préventif, associé à l'alimentaire, associé aux additifs, enfin, qui ont l'option de l'alimentation, associé à la pollution. Quel que soit le risque réel que ces risques environnementaux-là représentent, il y a quand même un poids de mobilisation. On revient souvent aux mêmes choses. En fait, il y a deux planètes. Hein. Il y a la planète France et il y a le reste de l'univers. Et il y a toujours une tendance un petit peu... comme un vieux, parce que ça fait 30 ans que je vous côtoie, mais il y a systématiquement une tendance à tout ramener les problématiques de santé au cas français, alors que vous êtes un cas vraiment spécial un peu sur la planète, vous n'êtes pas exceptionnel. Il y a quand même une caractéristique ici de omniprésence du monde médical, y compris dans les milieux associatifs, qui n'est pas partagée partout, hein, partout à travers le monde. Alors, cette docilité-là, on observe probablement ici, en tout cas, on l'observe beaucoup moins ailleurs. Je vais juste faire cette petite note.
Hélène.
Juste quelques mots par rapport à la docilité et les mobilisations. Moi, je pense que il peut y avoir plusieurs degrés de mobilisation. Il y a des mobilisations évidentes, publiques, dans l'espace public, sous la forme d'associations. Il y a aussi des mobilisations qui se déploient à un niveau plus infra-politique. Ça peut être des mobilisations de deux patients hospitalisés au sein d'une chambre double. Ça peut être des mobilisations de deux patients hospitalisés dans une chambre double qui vont mettre en œuvre des stratégies pour se montrer dociles face aux professionnels, ceci afin d'accéder à certains soins. Donc voilà, par rapport à la docilité, ça peut être aussi de la part de certains patients, dans certaines situations, une mise en forme, une mise en scène qui leur permet de pouvoir... prendre le contrôle de leur trajectoire de maladie. Voilà, en tous les cas, il y a peut-être deux niveaux de mobilisation. Hein, une mobilisation, l'action publique, qu'on renvoie à l'action publique, mais aussi les mobilisations infrapolitiques. Les travaux plus ethnographiques permettent de les saisir.
Bon, Raymond ?
Je reviens peut-être un peu au thème de la présentation. On a vu ce matin quand même, au niveau de la réflexion sur le guérir, l'importance de cette guérison-là, on voit que le concept est de moins en moins, il est plurisémantique, de plus en plus complexe, et ça applique peut-être à de moins en moins de problématiques. On a vu l'exemple qui a été donné ce matin avec les dysfonctions sexuelles tout ça, chez les femmes, ou chez les hommes, est-ce qu'on guérit vraiment à ce niveau-là? Lorsqu'on parlait des maladies prédictives, on voit que on ne pourra jamais être guéri de l'ensemble des problèmes de santé pour lesquels on a une probabilité minimale, je ne sais pas, de 2 ou 3 %. On ne pourra jamais être guéri de l'ensemble de ces probabilités-là. Et dans le texte de votre conférence, ce qui est intéressant aussi dans cette temporalité-là, c'est que même au niveau des maladies où il y a un traitement, évidemment, il y a le cas des maladies chroniques, où là, on est dans une autre temporalité, parce qu'il n'y a pas de guérison déjà même promise ou potentielle. Dans le cas du cancer, il y a quand même cette notion-là que, dans le fond, on n'en sera jamais guéri. Indépendamment des bonnes paroles que le médecin ou les équipes soignantes donneront, le patient se sentira toujours que minimalement en phase de rémission. Une rémission qui, bon, est-ce qu'on est guéri? On peut se penser plus ou moins guéri sur une perspective de 5 ans, moyennement guéri sur 10 ans, mais en disant on est foutu sur 20 ans. Alors, déjà, cette guérison et temporalité, moi je pense que c'était le grand intérêt de la communication, d'insister sur ces notions-là de temporalité. Où, dans le fond, on voit que dans le discours des malades, la guérison, là, c'est peut-être pas besoin d'être anthropologue, finalement, pour remettre le concept en question.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Si. Ce sera juste un commentaire. Vous avez écrit « La guérison est entravée par l'incertitude ». D'accord. J'aurais tendance à penser que c'est précisément que l'incertitude est plutôt un facteur de guérison. Et en fait, le commentaire que je fais donc, est plus une façon de d'interroger cette représentation collective. Je pense qu'on irait dans la rue faire un micro-trottoir et tout le monde serait d'accord avec le fait que lorsqu'on doute, on guérit moins vite. Et je ne suis pas sûr de la réalité de ce lien-là. Je ne sais pas si je suis.
Mais vous parlez de la guérison médicale ou du sentiment de guérison? Moi, je parlais de la représentation de guérison.
On ne parle parle que de représentation. Ah oui. Je pense que personne ici ne sait exactement ce que c'est que la guérison.
D'accord.
D'un point de vue médical, scientifique, à moins que quelqu'un lève la main en disant « Connard, tu te trompes ». Je ne pense pas. Et c'est clair, on est sur un colloque, on ne fait que blablater sur quelque chose que... Donc je ne sais rien. Les Grecs, peut-être, ont avancé un peu là-dessus, mais depuis, on rame la guérison. Mais c'est d'autant plus intéressant. Et c'est aussi pour ça que je m'amuse à interroger ce que je considère comme une représentation, ce que vous avez écrit. Des fois, on écrit des choses comme ça, et puis bon, personne ne se lève, sauf le connard de service, mais personne ne se lève pour dire « Ouais, pourquoi est-ce que vous écrivez ça ?» Je pense que c'est intéressant de se dire... C'est pas sûr que ce soit vrai. Et qu'il y a des thérapeutes qui travaillent là-dessus.
Et donc, ça voudrait dire quoi? Que l'incertitude serait facteur de guérison?
J'entends pas.
Ça voudrait dire que l'incertitude serait facteur de guérison?
Oui, je le pense.
Et c'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire qu'il y a énormément de prises en charge thérapeutiques qui, précisément, déstabilisent les personnes, introduisent le doute, introduisent une déstabilisation de leur vécu, de leur expérience. Et que c'est un facteur qui joue là-dessus. Bon.
Mais là, vous parlez de la guérison, vous parlez d'un bénéfice thérapeutique, en fait, de l'incertitude, c'est ça?
Oui, à ce moment-là, il y aurait un bénéfice thérapeutique.
Remettre du doute plutôt que de l'incertitude. Non. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ou est-ce qu'on s'arrête ici? Bon. Je t'en prie.
S'il faut arrêter, on arrête.
Non, mais on a le temps, vas-y.
En fait, c'est, en termes de fond, j'en viens à me poser la question sur la réceptivité des savoirs populaires par rapport à cette notion de probabilité. Parce que dans le fond, on parle toujours de probabilité ici. Que ce soit pour le patient cancéreux pour lequel on établit à 2 ans, 5 ans, 10 ans, une probabilité de survie. C'est la même chose dans les campagnes vaccinales, où on essaie d'entrer dans la tête des gens que oui, ce vaccin-là, il a une efficacité de tel pourcentage. Vous avez une réduction de tel pourcentage de risque de contracter la grippe, par exemple, si vous avez tel vaccin, etc. Partout, dans les messages que le monde médical envoie aux patients, tout maintenant est teinté de probabilité, pas seulement en médecine prédictive, évidemment, mais même en médecine classique. Or, les patients, en tout cas, je ne sais pas, mais dans les différentes études qu'on peut voir, les patients fonctionnent beaucoup plus en binaire. Est-ce que je suis guéri ou non? Est-ce que je suis malade ou en santé? Et on peut se poser la question, est-ce que il s'oublie en combien de temps et comment procéder? Et est-ce même souhaitable? Je ne sais pas. Le malade générique, là, en général, quelle que soit la maladie, est en mesure d'intégrer ces notions de je ne parle pas au niveau intellectuel, là, en termes d'intelligence, mais en termes même de rapport à soi, par rapport à la façon, cette incertitude dans laquelle cette personne-là vit, est-ce que oui, je pourrais continuer à assumer mes responsabilités familiales, conjugales, professionnelles, etc. J'ai toujours un épée de Damoclès sur la tête et tout. Est-ce que cette notion de probabilité-là peut passer dans la population?
Je peux. On a fait une étude sur un logiciel de la prescription pour les patients et les médecins généralistes et gynéco, en disant, voilà, avec tel ou tant de questions, vous avez un risque de plus ou de moins que la population générale, et donc on en déduit un dépistage particulier, plus d'IRM, moins de mammos, peu importe. Et donc j'ai testé le logiciel en focus group sur les femmes, sur les médecins, etc., sur ce... les difficultés à leur faire comprendre les questions de risque de plus que la population générale, moins que la population générale, ça a été des heures et des heures de pataugeage de ma part, je ne peux pas jouer. Le seul moment où ça a marché, c'est lorsque j'ai comparé ça avec les courbes de croissance des enfants. C'était des femmes, c'était cancer du sein. Et alors du coup, ça, ils voyaient bien quand leurs enfants étaient plus ou moins en dessous de la courbe de croissance normale. Et donc quand je leur ai expliqué en copiant le modèle de la courbe de croissance des enfants, qu'elles étaient plus ou moins, là ça a marché. Mais tout le reste, que de leur dire vous avez plus de points que la population, c'était incompréhensible. Et les médecins qui disaient elles ne comprendront jamais, eux comprenaient à peine plus.
J'ai vécu la même chose avec des focus group au niveau du vaccin. Ouais. Et peut-être est-ce une référence ou pas, je ne sais pas. Mais, en fait, mis à part les journalistes scientifiques, mais les journalistes en général n'arrivent absolument pas à comprendre les notions de probabilité. Et c'est eux qui écrivent les articles dans les journaux, les revues, en fait les médias. Alors peut-être que ça ne facilite pas non plus l'intégration de cette notion. Sans être trop pessimiste, j'avoue que il y a donc peut-être un hiatus, peut-être sur le long terme, entre un discours médical de plus en plus axé sur les probabilités en termes de diagnostic et de traitement, et un savoir populaire qui est mal à l'aise, en fait, pour toutes sortes de raisons, avec cette notion de probabilité.
Et moi, je reviens à une question. À partir du travail, là, est-ce qu'un des patients ou une des patientes aurait formulé quelque chose du type « je me sentirai guérie le jour où » ou quand il y aura
Non.
Jamais.
En plus, j'ai regardé les entretiens pour la communication, mais j'ai pas réussi à trouver justement des critères de la guérison. Mmh. En fait, non. Ils expliquent pourquoi, mais ils expliquent pas. En même temps, ma thèse portait pas là-dessus, donc j'ai pas posé la question.
Généraliste, et donc j'ai un patient qui avait une maladie de Hodgkin, qui a un cancer particulier qui se développe dans...
Il faut parler un peu plus fort, je pense.
Qui se développe chez les femmes adolescents, les gens jeunes, enfin ce patient particulier était jeune, d'où le pronostic médical est assez bon quand il est prêt à temps grâce à la chimio, un peu de chirurgie, enfin... Donc ce patient a traversé toutes ces étapes, il a quand même eu 2 rémissions. Mais alors, il y a une particularité, c'est que la chimiothérapie va faire que ces patients, on va leur informer qu'ils ont un problème de stérilité. Donc, chez les hommes, on fait parfois des réserves de sperme, chez les femmes, des réserves d'ovules. Et donc, ce patient-là se considérait comme stérile. Et au niveau médical, il a été considéré comme en rémission complète quand il n'a pas fait de rechute dans les 5 ans après la dernière rechute. Et lui, il s'est senti guéri le jour où sa copine est tombée enceinte complètement par hasard. Et il y avait un délai de 15 ans, de 10 ans entre les deux. Et donc, lui, il s'est senti guéri à ce moment-là. Médicalement, il était bon, mais c'est quand au niveau de sa vie personnelle, il y a eu des changements que... Voilà.
Bon, j'avais une question. Je me demandais si vous avez observé, justement face à cette incertitude-là, des réaménagements chez les patients du fait d'être face à une incertitude, des décisions de changement de vie, au niveau du travail, au niveau du couple. Enfin, moi, je suis infirmière, je travaille à domicile et pour un certain nombre de patientes en particulier, j'observe justement, enfin, parce qu'on continue à quand même au jour le jour, même si vous parlez de la phase de traitement, mais sur l'après-traitement, on est aussi dans, peut-être à la semaine, mais en tout cas, il y a un impératif enfin, les décisions se prennent de façon plus radicale, des passages à la retraite anticipée, des déménagements, des changements de trajectoire. Enfin, une réappropriation d'une certaine manière et je voulais savoir si vous c'est des choses que vous avez pu observer qui ferait que quelque part il y a des mobilisations individuelles, mais en tout cas j'ai du mal à exprimer, je suis pas
si c'est clair.
Psychologue, mais voilà, si c'est des choses que vous avez pu voir.
Si, effectivement, en fait il y a enfin, c'était uniquement des femmes, deux ou trois femmes qui en fait ont effectivement changé de vie, qui ont dit suite à mon cancer, je déménage ou je change d'orientation professionnelle. Mais en fait, c'était décrit avec un vocabulaire psychologique et je n'arrive pas du tout à l'analyser, en fait, de dire. Est-ce que le fait d'avoir recours à des termes psychologiques, c'est un. Elle décrit vraiment un mécanisme psychologique ou bien est-ce que c'est, on parlait de stratégie, est-ce que c'est des stratégies un peu de coping pour faire face, etc. J'ai pas réussi à l'interpréter. Donc je saurais pas dire si ça peut être une mobilisation personnelle pour répondre à l'incertitude.
Oui,
est-ce que nous clôturons le débat ? Merci à tous. Et comme il reste une heure avant la fin de la session, je vous propose qu'on aille dans les autres ateliers. On va laisser l'installation de la vidéoconférence avec Ottawa. Il n'y a pas d'autres communications.
Non, mais c'est à 16h30,
non,
ça se finit.
Il faut voir si. Je ne sais pas où en sont les autres. Ah oui, non, c'est fini, oui, pardon. C'était 15h30, donc... Enfin, allez voir si vous voulez.
Je ne suis plus là.
Voilà.
Non. C'est ça.